Dans une semaine, frères et sœurs, c'est Noël. Et en ce dernier dimanche avant cette fête, la liturgie se concentre sur les parents de l'enfant qui va naître, Joseph et Marie. Très souvent, il nous arrive de n'envisager que le couple de Marie et de Joseph, de ne considérer dans ce couple que son aspect exceptionnel. Mais avant cela, l'enfant qui va naître vient de l'Esprit-Saint, nous dit clairement l'Évangile. Sachons voir, avant tout l'aspect exceptionnel de la conception de Jésus, que le couple de Marie et de Joseph est bien plus proche de nos situations humaines qu'on ne le pense. Au départ, ce sont deux fiancés heureux, entre 15 et 20 ans. Alors on fait de Joseph un vieux vieillard. Je pense que Dieu a choisi pour Marie quelqu'un à peu près de son âge, peut-être un peu plus âgé. Et malheureusement, même certaines traditions disent que Joseph était veuf. Mais malheureusement, on peut être veuf très jeune à l'époque. Oui, c'est un couple de fiancés heureux qui font le merveilleux projet de devenir mari et femme. Souvenez-vous peut-être les couples dans l'assemblée de cette période de vos fiançailles. Or voici que l'imprévu arrive. Le projet semble briser, une crise dans le couple, quand Joseph apprend que sa fiancée est enceinte. En Orient et à cette époque-là, ce n'est pas rien. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas rien non plus. Tout le rêve de Joseph semble détruit. Est-ce qu'on est capable de comprendre la désillusion de cet homme qui se cache derrière ces quelques mots de l'Évangile ? Alors, à ce stade, Joseph décide de ne pas épouser Marie. C'est la décision d'un homme juste. Alors, cette décision, elle peut être la conséquence de deux interprétations. Il y a la classique, qu'on entend souvent. Joseph pense que Marie a fauté, comme on dit. Et il aime Marie, mais il ne veut pas qu'elle meure, donc il veut la répudier en secret. L'autre interprétation qui a ma préférence, c'est que Marie, qui est sans péché, et Joseph connaissait bien Marie, eh bien Marie a dû dire à Joseph la vérité. Elle ne lui a pas caché. Et Joseph ne devait pas se sentir digne d'être le père du Fils de Dieu. Alors, pour le Fils de Dieu, il faut un père quand même digne de Dieu. Il faut peut-être un grand prêtre ou un fils de roi, un prince. En tout cas, pas un charpentier. Alors, il décide de répudier en secret Marie pour qu'elle puisse épouser quelqu'un d'autre. Cette histoire, en tout cas, c'est un peu la nôtre. Il nous arrive aussi de faire des projets, de rêver, d'avoir des ambitions. Et puis, patatras, un imprévu arrive. Des circonstances que nous n'avions pas prévues brisent net ces projets merveilleux. Et à ce moment-là, nous sommes invités à nous dépasser, à faire face à cette nouvelle circonstance pour trouver en Dieu une nouvelle solution. C'est la situation difficile des couples qui se découvrent stériles ou des couples qui attendent un enfant inattendu. Dans tous ces cas-là, nous sommes tentés de nous passer de Dieu, alors que c'est justement à lui qu'il faut avoir recours. La solution dernière et définitive de nos problèmes humains, comme pour Joseph, ne se trouve qu'en Dieu. Oui, c'est Dieu qui intervient pour modifier le projet de Joseph. Oui, osons le reconnaître, Dieu demande à Joseph, à cet époux, de revenir sur sa décision, car Dieu a besoin de lui. Dieu peut parfois nous demander de changer quelque chose dans notre projet, dans notre vie, car il désire autre chose que ce que nous avions prévu. Dieu confie donc à Joseph un double rôle, prendre Marie chez lui comme épouse, et puis donner un nom à l'enfant. Donner un nom en langage biblique, cela signifie assumer la paternité légale de l'enfant en tant que descendant de David. Si l'on dit de Jésus qu'il est le fils de David, c'est par sa descendance via Joseph. Oui, celui qui choisit le nom à l'enfant exerce son droit de paternité auprès de cet enfant. Et Tout le monde à Nazareth disait de Jésus qu'il était le fils de Joseph, le fils du charpentier. Oui, pour des parents, adopter un enfant, c'est l'accueillir dans sa famille comme s'il était né de leur chair. Et il y a cette chanson de... Je ne me souviens plus exactement de l'auteur. Vous allez m'aider. C'est prendre un enfant... Voilà. Yves Duteil, voilà. Prendre un enfant par la main, prendre un enfant pour le sien. Oui, quand on adopte un enfant dans une famille, eh bien, il n'est pas à part. Il est véritablement notre enfant. Au temps du Christ, l'adoption était peut-être plus facile qu'aujourd'hui. En tout cas, il n'y avait pas de paperasse administrative aussi complexe qu'aujourd'hui. Elle était plus facile et donc plus courante qu'aujourd'hui. Et elle avait beaucoup plus de valeur. Le père adoptif était considéré comme le vrai père. C'est ainsi que Joseph, en adoptant le fils de Marie, est devenu son véritable père, comme une grâce que lui a faite le Seigneur. Comme nous le constatons, le rôle de Joseph n'est pas mince. Cette paternité de Joseph a eu certainement pour Jésus une importance énorme. On ne l'imagine pas assez. Quand on réfléchit, on peut toucher du doigt cette importance. Quand Jésus utilise pour nommer celui que tous appellent Dieu, lui que Jésus appelle Père, Abba, Papa. Et quand Jésus doit s'expliquer sur cette familiarité si déconcertante avec le Dieu d'Israël, Jésus reprend les mots les plus simples de son apprentissage à Nazareth, dans l'atelier du charpentier de Joseph. « Mon père jusqu'à présent était au travail, et moi aussi je suis au travail. Ce que fait le père, le fils le fait pareillement. C'est que le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Voilà quelques phrases de Jésus qui nous montre l'inspiration de Joseph. Oui, Jésus a trouvé dans l'affection de ses parents, Marie et Joseph, les mots les plus justes pour nous dire cette relation absolument unique qui unit Dieu le Père et Dieu le Fils. « Moi et le Père, nous sommes un », dira-t-il aussi. C'est auprès de Joseph que Jésus apprend ce qu'est un père. C'est en Joseph qu'il verra le reflet humain de la paternité de Dieu. Lui, qui saura si bien nous parler de son Père, c'est en regardant Joseph qu'il a fait l'expérience humaine de la tendresse paternelle. Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Oui, Jésus a appris que les pères de la terre savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Il a appris tout cela auprès de Joseph. Alors aujourd'hui, il est courant qu'on n'admette pas la naissance miraculeuse de Jésus. Ma propre grand-mère me disait « Oh non, Yaël, t'es bien gentil, tu peux devenir prêtre. » Déjà, ça me fait du mal, mais voilà. Mais Marie, bah, c'est une pauvre fille qui est tombée sur quelqu'un de malveillant. Et elle ne croyait pas du tout au miracle de l'incarnation. On voudrait que Jésus ait été conçu comme tout le monde. Et on voit dans l'intervention de Dieu comme une offense à la science. On prend des airs scandalisés. On parle de mépris à l'égard de la science, comme je le disais. Pourtant, on dit chaque dimanche dans le credo que l'Esprit Saint est Seigneur et il donne la vie. L'Esprit Saint donne la vie, on le dit chaque dimanche. Alors, réfléchissons un peu. Si Dieu n'est pas plus que nous, si Dieu n'est pas plus puissant que nous, alors c'est sûr, nous n'avons pas besoin de lui. Mais Dieu est Dieu. Et s'il ne dépasse pas nos capacités, alors oui, nous sommes perdus. Il ne peut nous sauver justement parce qu'il est Dieu et plus puissant que nous. Il nous sauve que parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire celui qui est tout autre. Et cette conception virginale de Jésus n'est qu'un signe qu'il réalise son œuvre par des actes qui nous dépassent totalement. Est-ce qu'on est capable, nous, de fabriquer une étoile ou une galaxie ? Dieu en a créé des milliards. Est-ce qu'on est capable de ressusciter un mort ou de faire ce qui arrive à chaque messe, que le pain des hommes devienne le corps du Christ? Non, nous n'en sommes pas capables. C'est l'Esprit Saint. Oui, nous croyons en l'Esprit Saint, capable de donner cette vie d'une manière qu'on ne saisit pas exactement, car nous sommes que des hommes, Oui, à la manière d'un Seigneur, d'un Créateur, il donne la vie. Les plus grands savants, les plus grands scientifiques, quand ils font une découverte, ne font finalement que découvrir l'œuvre de Dieu et ils sont ébahis. Ce qui explique que beaucoup d'entre eux, au lieu de se croire des génies, voient dans ce qu'ils découvrent l'œuvre d'un auteur, d'un créateur qui les dépasse. Certains passent, ne s'arrêtent pas à cet émerveillement, mais d'autres s'y arrêtent, comme les mages que nous verrons dans quelques semaines. Ils passent de l'admiration aux faits scientifiques à l'adoration, de l'intelligibilité du monde au Dieu souverain devant qui ils s'inclinent. Oui, dans quelques jours, ce sera Noël, et ce serait si beau, si bien, de voir le monde et nous-mêmes un peu changés par la venue de cet enfant, de passer de l'admiration à l'adoration. Il faudrait que le Seigneur, qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière, rempli d'allégresse, comme nous le dirons dans la préface tout à l'heure. À chacun et à chacune, belle fin d'avant, et à bientôt. Amen.